Ben moi, ça me fait plaisir d'être là. Ça faisait longtemps. Donc pour ceux qui me connaissent pas, avec Victoria, mon épouse, nous avons été pasteurs de cette église pendant 17 ans. Enfin, ça fait 4 ans qu'on a quitté. Ça fera en plein Covid en 2020 que nous avons pris la responsabilité de l'église d'Angers. Donc c'est pas bien loin. Mais les églises sont proches les unes des autres, vous savez. Il y a des églises d'Angers, Saumur, Cholet, Thouars, Loudun. J'étais à Loudun il y a 15 jours pour le culte. Lorsque nous sommes arrivés à Saumur en 2004, nous avons remplacé Daniel Leroux, le pasteur Daniel Leroux, qui allait être ensuite pasteur d'Angers. Vous voyez, il y a des choses qui se répètent. Et Daniel Leroux est aujourd'hui retraité et il continue de servir le Seigneur et il soutient en particulier l'église de Thouars que vous connaissez bien. Donc il est très présent sur Thouars. Donc oui, il y a des liens entre nos églises qui continuent, qui se poursuivent et c'est bien. Nous sommes un réseau d'églises que le Seigneur a voulu établir dans cette région pour porter le message de l'Évangile. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que quand je reviens ici à Saumur, moi c'est comme revenir à la maison finalement. Je me sens bien avec vous, comme à la maison. Alors, ce n'est pas un message que j'ai préparé exprès tout à fait. Hein, c'est un message que j'ai à cœur et que je partage. Mais bon, bien sûr, adapté pour Saumur, pour l'église de Saumur. Jésus a dit, je traduis ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean au chapitre 3. Il lui dit, faut naître de nouveau. Faut naître de nouveau. Et en disant ça, Jésus a défini fondamentalement ce qu'est un chrétien. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui adhère à une doctrine. C'est pas quelqu'un qui adhère à un groupe, qui devient membre d'un groupe. C'est quelqu'un qui vit quelque chose avec Dieu, qui fait une expérience où on ne comprend pas comment ça se passe, on ne sait pas ce qui se passe, mais ça se passe et ça produit un fruit. C'est ce que Jésus explique à Nicodème en lui parlant du vent. Vous savez, le vent souffle où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, mais tu entends le bruit, tu vois les effets du vent dans les feuilles des arbres. Il prend cette image-là pour parler de cette vie, de cette nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu agit, le vent souffle où il veut. Et il agit dans nos cœurs, il agit dans nos vies, il produit quelque chose, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas d'où ça vient, mais on voit les effets. Dieu agit dans nos pensées, dans nos manières de raisonner, dans nos cœurs. Être chrétien, en d'autres termes, Jésus prend cette image de la nouvelle naissance pour parler de la vie d'en haut, de la vie nouvelle. C'est le nom de cette église. Hein, le vie nouvelle, c'est pas par hasard. Donc Jésus a pris l'image de la naissance du nouveau-né qui naît, qui sort du ventre de sa mère pour entrer dans le monde. Alors Nicodème, il a du mal à comprendre ça. Dans Jean 3, Mais c'est cette image que Jésus prend pour devenir une personne à part entière, pour devenir quelqu'un de nouveau, de spirituel. La question, et je voudrais lire avec vous un texte, un premier texte dans Jean 10. Jean, alors le nouveau-né, voilà, j'avais pris une belle photo d'un nouveau-né. Tiens, tu reviens en arrière pour... voilà. Donc c'est nous quand on rencontre le Seigneur et qu'on fait l'expérience de cette nouvelle naissance. Dans Jean 10, voilà ce que Jésus enseigne à ceux qui l'écoutent. Et dans l'évangile de Jean, je ne sais pas si vous avez lu cet évangile et vous avez peut-être vu que Jésus est souvent en confrontation avec les juifs, avec les pharisiens, les autorités juives de son pays. Il y a souvent un conflit dans les échanges, dans les paroles. Et voilà ce que Jésus dit. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. S'il le permet, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Ici, Jésus ne dit pas simplement qu'il donne la vie. Il est question de la vie abondante ou de la vie en abondance. Il annonce que lui donne la vie en abondance. Avec cette image, c'est l'image du berger qui conduit ses brebis. C'est cette image que vous connaissez, le berger qui est devant et les brebis qui sont derrière, qui le suivent. C'est l'image de la protection aussi face au danger. C'est ce que Jésus dit ici. Il y a des loups, il y a des voleurs, des mauvais bergers aussi. Et en disant ces choses, en prenant ces images, Jésus est en train de cibler les autorités juives de son pays qui ont usurpé la place, qui revenaient à Dieu et qui revenaient au Messie de Dieu, qu'ils vont rejeter et qu'ils vont crucifier. En contraste, lui, Jésus, il est le berger qui donne sa vie. C'est ce qu'il va faire. Il va donner sa vie. Il annonce sa mort ici. Il annonce sa résurrection. Je donne ma vie et je la reprendrai. Et c'est son choix souverain. Il prend la décision d'aller jusqu'à la croix. Et par son sacrifice, nous avons la vie. Il a donné sa vie pour que celui qui croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. C'est ce qu'on appelle la substitution. La substitution. Substitution, c'est prendre une chose et mettre quelque chose à la place. C'est ça, hein, la substitution. C'est, il a payé le prix de notre péché, il a pris notre place sur la croix, et il nous a fait échapper à cette séparation éternelle d'avec Dieu, la mort. Et nous avons la vie. Donc à la lumière de Jean 3,16, on comprend que Jésus donne la vie par le sacrifice expiatoire, c'est encore un autre mot, mais qui parle de c'est élimination de la condamnation, du jugement, de la culpabilité. Il expie notre péché. Il n'y a plus de condamnation, dit Paul. Il n'y a plus maintenant, si j'ai mis le texte, je crois. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Libéré de la loi du péché et de la mort. Les lois, vous savez, il y a des lois naturelles. Hein. Si je lâche le micro, il va tomber par terre. C'est des lois de la physique. Il y a des lois naturelles biologiques pour la vie. Et de la même manière, il y a des lois spirituelles. C'est ça dont Paul parle ici. Et cette loi spirituelle qui dit que le péché conduit à la mort. Le péché, le résultat du péché, c'est la mort. C'est-à-dire loin de Dieu, loin du Dieu de vie, en fait. Et en Jésus-Christ, nous avons la vie. Mais alors, si échapper à la mort, c'est la vie, avoir la vie, c'est échapper à la mort loin de Dieu, que veut dire avoir la vie en abondance? Le mot qui est utilisé ici, dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec, périssos, parle de débordement. C'est déborder. C'est avoir plus que nécessaire, en excès. Ça parle d'une plénitude, mais plus que. Ce dont Jésus parle ici, c'est cette vie qu'il donne, qui est beaucoup plus que simplement ne pas mourir, vous voyez. Paul en parle ici comme vivre de la vie, l'esprit de la vie en Jésus-Christ. C'est vivre de l'esprit de la vie en Jésus-Christ. C'est cette autre loi surnaturelle qui fait que lorsque l'Esprit de Dieu vient dans notre vie, souffle sur notre vie, il nous communique quelque chose, une puissance de vie. En fait, lorsqu'on lit tout le texte de Jean au chapitre 10, juste avant, Jésus il raconte une parabole, une image, il prend d'autres images. Et il commence en fait au verset 7 par parler de la porte des brebis. Il commence par dire, vraiment, je vous l'assure, moi je suis la porte, moi je suis la porte où passent les brebis. Il se présente d'abord comme la porte qui ouvre vers les pâturages, puis comme le berger qui conduit le troupeau dans les pâturages. Et la porte, il n'y en a qu'une. Elle permet aux brebis d'aller et de venir, d'aller vers les pâturages et de trouver la sécurité, d'aller dans les pâturages et de trouver la nourriture en abondance. Jésus dira autrement, un peu plus loin dans l'évangile de Jean, chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas d'autre vie que Jésus pour voir la vie en abondance. Donc Jésus est la porte parce qu'il a donné sa vie. C'est ce qu'il dit, il a donné sa vie à la croix pour que nous ayons la vie en lui. Et que Jésus qui ouvre à cette vie-là, une vie de plénitude par le Saint-Esprit, qui vient dans notre être intérieur, qui vient te restaurer, te guérir de l'intérieur, prendre ce que Dieu avait donné, ce que Dieu avait créé en toi, et le restaurer complètement. Ce processus de vie commence lorsque nous mettons notre confiance en lui. Et Jésus a donné la vie par, on l'a dit, par un acte rédempteur. Il a donné sa vie, il nous a rachetés, hein, c'est ça le mot rédemption, c'est le rachat de la mort par son sacrifice. Et le Saint-Esprit, lui, qui souffle sur nos vies, accomplit cette rédemption en nous donnant de mener la capacité de mener une vie à la gloire de Dieu, en fait. Ça, c'est la signification de l'abondance de vie, de plénitude, de quelque chose qui déborde. La vie va finir par se voir. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. Moi, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La vie que Jésus donne, c'est la vie qu'il nous donne en abondance. La vie que Jésus a donnée à la croix, c'est la vie en abondance qu'il nous donne. C'est la vie de celui qui donne sa vie par amour. C'est la vie de l'homme nouveau. Paul, il va parler d'une nouvelle humanité en comparaison avec Adam. Pour ceux qui ont lu Romains, l'Épître aux Romains, vous voyez de quoi je parle. Il parle de nouvel Adam, Jésus-Christ, le nouvel Adam. Jésus est le premier-né d'une nouvelle humanité, d'une recréation par l'Esprit de Dieu. Et la nouvelle naissance, ça ouvre à la vie nouvelle, celle de l'homme nouveau créé pour une nouvelle création. Et la logique de l'apôtre Paul. La vie nouvelle, c'est être comme lui. C'est-à-dire vivre notre vie à sa suite. C'est l'image des brebis qui suivent le berger. C'est pour manifester dans notre vie, au quotidien de notre vie, ce qu'il est. Son caractère, qui il est. Je suis doux et humble de cœur. Jésus savait qui il était. Il n'avait aucun doute sur son identité de fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il était capable de donner, de manifester la compassion, la bonté, la grâce. Il s'arrêtait sur le chemin quand quelqu'un criait à lui, quand un malheureux était sur le chemin, Jésus s'arrêtait. Il s'arrêtait pour des lépreux, il s'arrêtait pour des infirmes, pour des aveugles, alors qu'ils étaient rejetés par d'autres. Lui, Jésus s'arrêtait, prenait soin de ceux qui étaient autour de lui. C'est son caractère. Il manifestait la compassion, la bonté, la grâce de Dieu. Et en apportant ce secours concrètement, cette attention, une parole bienfaisante, une attitude bienfaisante, enrichissante, bien Jésus manifestait qui est Dieu. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ça vous rappelle quelque chose pour ceux qui ont lu l'Épître aux Galates au chapitre 5, verset 22. Paul nous dit que ce sont toutes ces choses que l'Esprit de Dieu produit en nous. Il parle d'un fruit. Il parle du fruit de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui le produit en nous. Une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de parler et d'agir. La vie nouvelle que Jésus a donnée par son sacrifice produit ces choses en chacun de nous par l'Esprit et ça se voit comme le vent dans les arbres. Tu en entends le bruit, tu en vois les effets. C'est pas simplement, vous savez, un changement radical, un changement. Ce qui fait le chrétien, c'est pas simplement un titre, un nouveau statut, ou une catégorie abstraite, c'est pas le changement en soi, vous voyez. C'est pas une sorte d'amélioration de notre être, de notre caractère. Mais c'est ce que je viens de dire, c'est ce que l'Évangile nous dit que nous devenons en Jésus. C'est pas une version améliorée de moi, devenir le meilleur de soi-même. Ça vous dit quelque chose, hein? Bon, voilà. Non, non. C'est devenir comme Christ lui-même. C'est ça, être, devenir chrétien. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Romains, Romains 8. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés pour son projet. Vous savez que Dieu a un projet ? Dieu a un projet. Dieu a un projet de grâce, de bonté, de réussite, de richesse dans nos vies. Dieu a un projet pour toi. Peut-être que tu ne le vois pas, mais Dieu a un projet. Et quel est le projet dont il est question ici pour ceux qui sont aimés de Dieu ? Donc pour toi, pour chacun de nous. Quel est son projet ? Regardez. Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire chacun de nous, Dieu nous connaissait avant que nous existions, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Configuré. Bon, ça va parler aux... Le mot français, là, il va parler aux informaticiens, aux... ceux qui... Configuré à l'image de Jésus. C'est le mot grec, c'est submorphos, de la même forme, donc. Devenir semblable à. Devenir semblable à quoi ? À l'image de son Fils, à l'image du Fils, qui est l'image du Dieu éternel lui-même. C'est ce changement à l'image de Christ qui fait que je suis vraiment enfant de Dieu. Ce processus qui commence dans cette nouvelle naissance, lorsque je reçois la vie, une vie comme la vie naturelle qui va grandir en moi, qui va grandir dans ma vie, porter un fruit et se manifester. Cette vie, elle a son origine en Jésus-Christ, on l'a vu, le premier-né, le premier humain de la nouvelle humanité, le porteur de la vie divine qui est venu nous la donner en la donnant à la croix. Son origine est en Jésus et sa nature, on l'a vu, c'est le spirituel, c'est le vent de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui agit en chacun de nous pour manifester chaque jour dans nos actes, dans nos vies, cette vie nouvelle en abondance, c'est-à-dire manifester le caractère, la personne de Jésus. On va lire un deuxième texte pour aller plus loin, c'est-à-dire pour voir comment ça se manifeste. Et on va prendre ce texte dans la première épître de Pierre au chapitre 1, verset 22, qui s'adresse à des chrétiens qui ont reçu la vie nouvelle. Ils ont reçu, par la foi, le salut que Jésus donne. Regardez ce que l'apôtre Pierre leur dit, il dit à ces chrétiens. Et on peut s'identifier à eux, vous allez voir. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe, toute sa gloire comme la fleur des champs, l'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté, de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Amen. Il encourage ces chrétiens qui vivent en Asie. Ils ont reçu la vie nouvelle, ils ont cru en Jésus, ils ont reçu l'Esprit, ce vent qui souffle dans leur cœur, dans leur vie. Mais la question qui se pose à eux, c'est comment mettre en œuvre, comment vivre concrètement dans ma vie quotidienne cette réalité de la vie nouvelle? Comment manifester la vie de l'enfant de Dieu dans un monde qui s'oppose complètement à ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu? Comment manifester la bonté et la grâce dans un monde violent, le monde dans lequel il vivait, et peut-être aussi un peu le monde dans lequel nous vivons? Où celui qui est fort, celui qui a un pouvoir, écrase le plus faible. Rien n'a changé finalement. Un monde injuste, un monde inégalitaire, oppresseur. Et il va s'intéresser d'une manière particulière dans cet épître aux chrétiens qui sont dans ces situations sociales difficiles, complexes. Les femmes chrétiennes mariées avec un non-chrétien. Les esclaves chrétiens qui ont des maîtres non-chrétiens. Comment faire ? Comment être citoyen de la ville, de l'empire, alors qu'on porte la vie nouvelle, dont les valeurs dépassent les lois, les cultures de ce monde? Alors l'apôtre va comparer la vie chrétienne à un exode. Regardez ce qu'il dit au chapitre 1, verset 13. « Saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apporté lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Saigner les reins, c'est, vous savez, on avait des pas comme aujourd'hui, hein, des vêtements qui nous permettent de marcher facilement, mais ils avaient des longues tuniques et il fallait mettre une ceinture lorsqu'on se mettait dans l'activité ou dans la marche. Donc l'image de se ceindre, c'est l'image de la marche. Mais c'est pas la marche physique, vous avez compris, c'est de l'entendement. Mettez-vous, soyez vigilants, soyez en marche dans votre esprit, comme un peuple en marche, en exode, vers le pays promis. Eh bien, l'Église, aujourd'hui, est en exode, vers l'accomplissement du salut, et l'accomplissement du salut lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et cette marche, c'est quoi? Eh bien, Pierre va décrire cette marche avec six impératifs, six encouragements de la marche. Et le premier, c'est ayez une entière espérance. Non, c'est, tu reviens, verset 13, c'est ayez une entière espérance, c'est espérer. Se mettre en marche, c'est regarder au but de la course, à la destination. Notre histoire a un but, a une finalité. Quelles que soient les situations que nous vivons aujourd'hui, je connais la fin de l'histoire parce que Dieu le dit dans sa parole. La grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il leur dit aussi, et là tu peux passer au verset 14, comme des enfants obéissants, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Oui, la manifestation de la vie nouvelle, c'est être comme Dieu, c'est comme lui, être saint parce qu'il est saint. Et Pierre, il reprend le commandement de l'Exode ici, vous serez saints, car je suis saint. Et un impératif, ça implique un effort, soyez saints. Et pour le chrétien né de nouveau, celui qui a reçu la vie en Jésus-Christ, cette sainteté, je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui l'a produit, c'est le Saint-Esprit qui souffle sur les cœurs, qui nous permet de changer de comportement, de pensée même. Mais ils sont appelés à rendre cette sainteté visible, à la transférer dans des actes, à transférer cette sainteté que Dieu donne chaque jour dans des actions, jour après jour, au quotidien de leur vie. C'est pas les efforts qui les rendent saints, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas leurs efforts qui les rendent saints, parce qu'ils sont régénérés, parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu qui sanctifie. Leur conduite n'ajoute rien à la sainteté opérée en eux, mais elle l'exprime, et parce qu'elle l'exprime, elle la multiplie. Vous voyez? Pierre, il continue avec un troisième impératif. Être saint, c'est se conduire, avoir la conscience de se conduire sous le regard du Père. Mobilisez votre entendement. Réalisez que c'est devant le Père. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. L'apôtre, il nous donne un parfait équilibre ici dans notre relation avec Dieu entre le Père, entre l'intimité et la liberté filiale, la liberté que nous avons, et la crainte. Et la crainte, c'est pas la peur, c'est pas une angoisse d'un juge qui est là pour surveiller et à poser un verdict sur nos vies, parce que le verdict sur nos vies a déjà été posé à la croix, et il a été posé sur Jésus. Il a pris notre condamnation. Mais il s'agit d'un respect. le respect du Dieu saint. Nous rappelons que il a fallu la mort de Jésus-Christ à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Alors, ça nous amène à prendre au sérieux ce que Dieu attend de nous, de nos vies. C'est prendre au sérieux le regard du Père qui est le juste juge de l'humanité tout entière. Et à considérer son regard sur tous les aspects de notre vie. Être saint, ça se manifeste comme un impératif en particulier, qui est au cœur de ce que Pierre nous dit ici, mais au cœur aussi de toute la parole de Dieu, de toute la loi de Dieu. Verset 22. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est une évidence d'aimer. C'est facile d'aimer. L'amour, je vous rappelle, est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. Non. L'injustice, la triste, la vérité, le réjouit. Aimer. Aimer comme Jésus nous a aimés et a donné sa vie pour nous. L'amour, un amour configuré à celui de Jésus. C'est pas facile ça pour nous, êtres humains. Faibles. Alors reconnaissons que nous avons besoin de lui. Reconnaissons face à la grandeur de ce que nous sommes appelés à manifester, que nous avons besoin de sa puissance dans nos vies. Écoutons cette exhortation de l'apôtre Pierre. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Parce qu'ils obéissent à la parole du Seigneur, à la vérité, alors ils sont purifiés. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Le message de l'Évangile, en d'autres termes, il est efficace quand on le reçoit avec un esprit de douceur, comme dit l'apôtre. Il produit une pureté dans nos cœurs, ce message, lorsque nous le recevons par la foi. Et ça se produit, ça se manifeste, ça se traduit dans des actes, dans des paroles qui révèlent un amour fraternel. Que Paul qualifie ici, que l'apôtre qualifie de sincère, que Pierre qualifie de sincère. C'est-à-dire sans artifice, vous savez, sans faux semblant, sans être déguisé par le port d'un masque, littéralement, pendant le grec. Parce que avant de produire des actes ou des paroles de bienveillance envers les autres, le cœur est rempli de cet amour-là, de tout votre cœur. L'amour qui remplit la profondeur de l'être. Parce que sans ça, les démonstrations d'amour ne sont que des artifices, finalement. Un déguisement, dit l'apôtre, cachant des motivations réelles qui sont conscientes ou non, mais qui sont toujours centrées sur soi, et pas sur l'autre ou sur les autres. Jésus, lui, il est mort. Il a donné sa vie pour nous. C'est cette qualité d'amour-là dont il est question. Aimer ardemment. D'une intensité, d'un engagement total qui a été jusqu'à la croix pour Jésus. Aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est cette relation mutuelle, fondamentale, cet amour qui construit et qui fait l'Église, qui fait le ciment qui unit l'Église. Aimer, ça commence par s'accueillir les uns les autres. Accueillez-vous donc les uns les autres, dit l'apôtre Paul en Romains 15, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous. Et l'apôtre, il dit, mais pour vivre cet amour-là, pour vivre cette réalité-là, pour manifester la vie nouvelle de cette manière-là, il n'y a qu'un moyen, c'est l'œuvre de la parole en vous. Et regardez ce qu'il dit au verset 23. Vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante éternelle de Dieu. C'est beaucoup plus qu'une purification qui les libère du passé, vous voyez. Il s'agit d'une vie nouvelle à laquelle ils sont nés. Il y a un processus, une puissance de vie en eux, surnaturelle, qui est illustrée ici par une autre image organique que Pierre nous donne. C'est la semence qui est semée et qui va germer et croître et donner du fruit, qui n'est pas corruptible, mais qui est immortel. C'est une semence de nature divine, éternelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Elle seule peut produire ce miracle de vie transformée, de cœurs qui sont reconfigurés, configurés à l'image de Christ, comme Christ, pour aimer comme lui. Et l'apôtre, il continue, il insiste. En effet, il est écrit, tout homme est pareil, j'ai dû mettre verset 24, si tu passes. Non, je l'ai pas mis. Tout homme est pareil à l'herbe, toute sa gloire comme la fleur des champs, l'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Il cite Ésaïe 40, en fait. Entre parenthèses, pour ceux que ça intéresse, c'est dans le texte du prophète Ésaïe, c'est l'annonce d'une nouvelle exode du peuple de Dieu. Intéressant. En comparaison avec la fragilité de l'être humain, qui est illustrée par cette herbe, cette fleur qui passe en une saison, la parole que nous avons reçue, qui a été semée en nous, lorsque nous avons reçu par la foi cette parole est en train de grandir, de croître, de porter un fruit éternel. De nous-mêmes, on ne peut pas aimer comme Christ nous a aimés. Et il en vient à cet impératif logique qui découle de tout ce qu'il vient de dire. Regardez ce qu'il dit. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole. Et là, on trouve un équilibre parfait entre, vous savez, l'œuvre surnaturelle, l'œuvre de Dieu en nous, et l'effort constant du croyant, cette mobilisation de notre entendement. La parole est puissante pour donner la vie, mais c'est à nous de recevoir par la foi. Nous sommes appelés à la recevoir, à désirer même cette parole, ce lait pur. Mais lisons tout le verset. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Pierre, il fait appel à plusieurs images, il accumule les images ici. La première, c'est le vêtement dont on se dépouille. Et dans l'Antiquité, il y avait la tunique et puis il y avait le manteau, le vêtement qu'on met par-dessus, celui qu'il faut attacher avec une ceinture. Et il dit de se dépouiller du vêtement. Et il décrit ce vêtement, en fait. Il y a cinq vêtements dont on doit se dépouiller. Vous continuez de garder vos vieux vêtements, vous ? À un moment donné, quand il y a des trous partout, moi, c'est les jeans, j'ai les jeans à la maison. Ils finissent dans le jardin, pour le jardinage. Mais à un moment donné, il y a tellement de trous que je peux même plus jardiner avec, vous voyez. Mais c'est ça, à un moment donné, on est obligé de se débarrasser des vieux haillons. C'est ce que l'apôtre dit ici. Il y a des choses, c'est comme des haillons dont on doit se débarrasser. On doit le faire, nous. Cinq haillons doivent être rejetés. Et c'est un effort constant dans le texte. À commencer par l'habit extérieur, le manteau. Et c'est les vices qui englobent tous les autres finalement, toute malice et toute ruse. La malice consiste à envisager là, dans notre tête, le mal qu'on peut faire à l'autre. Ça commence là en fait. Et la ruse, ça évoque toute l'utilisation des moyens, des tromperies pour arriver à ses fins. De ces deux choses fondamentales se décline une conduite décrite ensuite avec trois termes grecs qui sont au pluriel dans le texte grec, mais qui sont traduits au singulier, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Ou les dissimulations, les envies, les médisances. Les dissimulations, le mot c'est hypocrisie, selon le grec. Les attitudes extérieures qui voient les vraies intentions. Les envies et les jalousies concernent les attitudes du cœur. Les médisances et les calomnies, c'est les paroles, ce qui sort finalement de nous et qui font du mal. Ces choses, dit l'apôtre, ne sont pas compatibles avec l'expression d'un amour fraternel sincère. On le comprend facilement. Mais il y a un effort pour rejeter ces choses. Il y a un effort pour se dépouiller de ces choses. Et c'est un effort négatif, rejeté, mais qui s'appuie sur un effort positif. Comme un, vous savez, quand vous déplacez un meuble, vous avez besoin d'un appui. Vous êtes d'accord avec, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes sur un sol glissant, vous ne pourrez pas déplacer le meuble parce que ça glisse. Vous avez besoin d'un point d'appui. C'est ce que l'apôtre dit ici. Nous avons besoin d'un point d'appui pour pouvoir rejeter toutes ces choses. Et le point d'appui, c'est quoi? Pour cet effort constant de rejeter, c'est désirer ardemment le lait pur de la parole. Désirer ardemment. Désirer, c'est une orientation de notre être vers le lait pur de la parole. C'est ça qui va nous permettre de rejeter ces choses. C'est ça qui va nous permettre de nous dépouiller encore et encore de toutes ces choses. Et c'est elle qui nous change. C'est cette semence de vie qui nous change. Vous avez l'image du nouveau-né ici. Ce n'est pas un désir qui s'exprime de manière secondaire, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez tous entendu, si vous êtes des parents en plus, vous avez vécu, l'enfant qui pleure pour avoir son lait. Non ? Vous voyez de quoi je parle ? Il y a 15 jours, on était en Angleterre, on a vu nos filles, Caris et Tess, qui vivent en Angleterre maintenant avec leur mari. Entre parenthèses, elles sont toutes les deux installées dans leur travail. Bon, je donne des nouvelles, hein, c'est entre nous, si vous ne connaissez pas Carrie et Tess. Dans leur travail, elles, avec leur mari, elles sont dans leurs églises, elles servent le Seigneur. C'est très réjouissant. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, on fêtait l'anniversaire de Tess, les 30 ans de Tess. Et ça, forcément, quand on a ce genre d'événement, on se rappelle des choses, vous voyez. Mais je me souviens, ce petit bout de chou, il n'était pas question de discuter avec elle, d'essayer de la calmer ou quoi que ce soit. Si elle avait faim, si elle voulait son biberon, il fallait lui donner le biberon. C'était pas le choix. C'est une question de vie et de mort, hein, pour un bébé. C'est ça. C'est l'image que l'apôtre utilise ici. C'est pas quelque chose de secondaire. C'est une impulsion, un instinct vers la nourriture dont dépend notre existence. C'est ce lait pur, sans mélange. Alors, pur sans mélange, ça veut dire que ce n'est pas un cocktail, vous voyez, dans lequel on met toutes sortes de choses qui nous plaisent bien, qui font du bien à nos papilles. On ajoute des sirops, ce qui plaît à nos oreilles, ce qu'on aime entendre. L'apôtre, il viendra un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables. C'est de Timothée 4:3. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Je ne sais pas si l'apôtre connaissait Internet quand il a écrit ça, mais je me dis, il y a quelque chose, parce que c'est un peu ça quand même. Hein? Si vous allez sur Internet, il y a plein de choses. Vous avez toutes sortes de choses qui vous sont enseignées. Et qui, voilà, vous pouvez choisir, quoi. Si ça vous plaît pas, vous changez de crémaillerie. Non, la nourriture, la puissance de vie qui transforme notre vie, frères et sœurs, qui réoriente nos pensées, nos émotions, notre volonté, comme Christ, elle est pure, elle est sans mélange, elle est simple, elle touche nos cœurs sans détour, et nous devons la recevoir, elle confronte nos cultures, elle confronte nos aspirations, nos désirs, notre faiblesse humaine. Ce que la Bible appelle la chair, c'est la faiblesse humaine. Et elle produit une croissance dont la finalité est le salut. C'est cette marche avec des impératifs ou des encouragements, je les appelle des encouragements de l'apôtre, qui sont l'image de ces pas que nous faisons dans la vie nouvelle, concentrés sur l'espérance, en étant saints, avec une conduite juste et digne du Père, par l'amour mutuel, par l'obéissance à la vérité de l'Évangile, de cette parole qui nous nourrit. Et quand on fait tout cela, qu'on vit tout cela, qu'on est tout cela, l'apôtre nous dit, il y a un dernier impératif, qui est l'aboutissement de tout ça. C'est quand on fait tout ça, on construit. On bâtit. On ne le sait pas, mais on bâtit quelque chose. Chapitre 2, verset 4, approchez-vous de lui pierre vivante rejetée par les humains, certes mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Voilà, être configuré à Jésus, c'est être bâti dans la maison comme des pierres vivantes, posées sur la pierre, une autre image que Pierre utilisait, une autre, nouvelle image, qui est celle du bâtiment, du temple. On construit ce que nous sommes appelés à être, l'Église de Jésus-Christ, dans le monde. Voilà ce que l'apôtre Pierre donne à ces chrétiens qui vraiment vivaient ces difficultés, que nous pouvons vivre aujourd'hui pour vivre la vie nouvelle dans notre monde. Toutes ces images de l'Écriture nous parlent de la vie de l'Esprit surnaturelle que nous avons en Jésus-Christ. Et parfois, on peut être découragé, frustré, des choses qui vont pas, on s'entend pas, il y a des choses qui ne passent pas dans nos relations les uns avec les autres. Comment aimer ardemment de cette manière-là? Comment nous aimer les uns les autres? Comment manifester cet amour? Eh bien, la réponse, elle se trouve là, dans la manifestation de cette vie, de cette force de vie surnaturelle qui vient de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est cette manifestation concrète de cette semence de vie de l'Évangile qui nous conforme, qui nous transforme à l'image de Jésus et qui nous permet d'aimer comme lui nous a aimés. Désirez ardemment le lait pur de la parole. Amen. Ça veut dire être concret. Tiens, j'ai amené ma Bible. Je sais pas comment vous faites pour vous nourrir tous les jours. Je sais pas si vous vous mettez à table. Pareil qu'en France, il y a de moins en moins de gens qui se mettent à table en famille pour manger. Je ne sais pas comment vous arrivez, parce que c'est une question de mode de vie, hein, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, on prend une assiette, on mange, ou alors un casse-croûte, on mange. Enfin, voilà. Moi, je conseille ça pour notre vie spirituelle. Je conseille vraiment ça. C'est-à-dire que ça, c'est bien, les portables, c'est bien pour lire quelques textes comme ça, mais là, vous avez la possibilité de manière pratique, concrète, de lire le texte biblique avec un suivi. Moi, je vous conseille vraiment de lire le livre. il y en a à la librairie. Hein. Mais de se nourrir, de goûter encore et encore. Et plus tu y goûtes, et plus tu auras envie d'en savoir plus. Plus tu lis la Bible, et plus... Alors, si vous croyez avoir lu la Bible et que vous connaissez tout... Moi, j'étudie depuis je ne sais pas combien d'années, jusqu'au niveau universitaire, et je n'arrête pas d'étudier et d'apprendre. Chaque fois que j'ouvre le texte biblique, le Seigneur me montre des choses et me parle. On apprend toujours, frères et sœurs. Et en faisant cela, la vie de Dieu va grandir en toi. Cette vie surnaturelle, ce n'est pas quelque chose que tu vas produire. C'est Dieu qui va le faire afin, comme le dit le texte, qu'il grandisse. Qu'il vous fasse grandir pour le salut. Amen. Seigneur vous bénisse.